Dans quel monde on vit fête ses 10 ans et si pour célébrer cet anniversaire, vous vous abonnez à notre podcast. Déjà, merci pour ce chouette cadeau.
La mort nous enlève beaucoup de choses, mais elle ne nous enlève pas nos histoires.
Bonjour à vous, c'est Pascal Claude. Quels sont les liens humains possibles pour aujourd'hui et demain? C'est la grande question qui va mobiliser nos conversations avec nos deux invités, les écrivains Colm McCann et Christophe Boltanski. Bonne écoute.
La première.
Dans quel monde on vit? Avec Pascal Claude.
Son fils n'est plus depuis 7 ans et ce matin, elle va s'asseoir avec l'un de ses assassins. Cette perspective lui noue les nerfs à la base de la nuque. Ce n'est pas seulement qu'elle ignore ce qu'elle attend de lui, c'est aussi qu'elle ne sait pas bien ce qu'elle attend d'elle-même. Une symphonie confuse. Compassion, vengeance, ressentiment, pitié, deuil, grâce. C'est un extrait du nouveau livre du grand écrivain Colm McCann. Une fois encore, il sonde la possibilité des liens humains partant fort chahutés. Entretien exceptionnel. Dans un instant, je me dirige vers une énormité, un empire enfermé dans une boîte, une encyclopédie en trois dimensions, une arche qui contient tout, faune, flore, homme et dieu, toute la mémoire d'un monde rassemblé dans un même écrin. Je m'apprête à passer la nuit à l'intérieur d'un bâtiment monumental et aux prétentions exorbitantes. C'est ce qu'écrit l'écrivain et journaliste Christophe Boltanski. Ce sont les liens entre l'Afrique et l'Europe qu'il questionne depuis l'Africa Museum à Tervuren. Nous sommes à ses côtés dans une demi-heure. Mais d'abord donc, rencontre avec Colm McCann.
Dans quel monde on vit?
Bonjour Colm McCann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons largement évoquer American Mother, votre nouveau livre, le courage d'une mère qui vit malgré la décapitation de son fils par le groupe terroriste État islamique. Son fils, c'était le journaliste James Foley, mort en Syrie en 2014. Mais d'abord, faisons connaissance. Vous êtes né en 1965 à Dublin, en Irlande. Vous vivez aujourd'hui à New York, aux États-Unis. Vous avez été journaliste avant de vous consacrer entièrement à la littérature. Vous nous aviez épaté avec Apérogon, votre précédent roman sur le conflit israélo-palestinien, roman qui s'appuie sur votre rencontre avec Bassam et Rami, un Palestinien et un Israélien qui ont tous les deux perdu une fille à cause de la violence. J'ai une première question à vous poser. Est-ce que pour vous écrire, ça ne serait pas d'abord écouter ?
Yeah, absolutely. I mean,
c'est tout à fait vrai. Pour moi, en fait, l'art d'écouter, c'est vraiment une capacité, une faculté que nous sommes en train de perdre en tant que société, en tant qu'humanité. Et je crains vraiment qu'aujourd'hui, on soit tous et toutes capables de raconter notre propre histoire, notre propre narratif, mais qu'on devienne graduellement incapable de raconter les histoires des autres. Et pour moi, raconter le monde, écouter le monde, c'est surtout écouter et raconter les histoires de tous les autres, de tous ceux qui ne sont pas moi-même.
Of everybody else.
Dans votre nouveau livre, il y a cette phrase « Être troublé, c'est s'ouvrir au champ des possibles ». Est-ce que vous cherchez, vous, à être troublé? Est-ce que c'est une sensation utile quand on ouvre, quand on s'ouvre à un nouveau champ littéraire, à un nouveau livre, Colm McCann?
Oui. I don't know if I want to be upset and I don't know if I want to be.
Je sais pas si je cherche véritablement à être troublé, à être dérangé, mais ce que je sais c'est qu'il y a énormément de choses qui peuvent surgir d'un deuil. Et il y a une citation que j'aime beaucoup d'un recueil de poèmes du 6e siècle, un recueil de poèmes arabes qui s'appelle le Mu'al Ikhwat. Ce sont des poèmes qui étaient affichés un peu partout à Bagdad, à Damas, dans les marchés, dans les souks, il y a plus ou moins 1500 ans. Et cette phrase, en fait, qui m'a vraiment marquée, c'est « Y a-t-il un espoir que toute cette désolation nous amène de la consolation ?» Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à apprendre, justement, de toute cette noirceur, de tout cet ténèbres et qu'il y a des belles choses qui peuvent en sortir.
Est-ce que je peux dire que je suis encore un optimiste, pas un pessimiste? That's the only French I'm going to speak. But I still feel that despite all the evidence, it is my duty to be an optimist to find the light.
Vous prenez l'espoir au sérieux?
Yes, very seriously. Very seriously.
Oui, je prends effectivement l'espoir très au sérieux. D'ailleurs, pour reprendre à mon compte la formule d'Antonio Gramsci, pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. Et je pense qu'il est vraiment de notre devoir d'être optimiste et que pour être un bon optimiste, il faut aussi être cynique, finalement. Il faut pouvoir descendre dans les tréfonds des ténèbres, les admettre et dire oui, c'est vrai, le monde va mal, il y a toute cette noirceur, mais so what ? Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Il nous faut vraiment espérer. Parce qu'il n'y a qu'en espérant qu'on pourra en sortir une certaine bouffée d'oxygène. Alors certaines personnes peuvent trouver ça idiot ou sentimental, mais néanmoins c'est ce que je crois. C'est ma conviction.
And at the same time, I also think that we have to have fun.
Et en même temps, je pense que nous devons nous autoriser à nous amuser.
Les notions de paix et de justice, elles sont en fait, Colm McCann, au cœur de votre œuvre. Comment ça se fait ?
So my favorite answer to most questions is I don't know.
Quand on parle de paix et de justice, ma réponse préférée, c'est généralement « je ne sais pas ». Mais si je dois être honnête, il est vrai que j'ai grandi dans un pays en guerre, l'Irlande. Ma mère était de Derry, mon père était de Dublin. Et très très jeune, je passais la frontière en bus vers le nord avec ma mère. Et donc, soudainement, j'étais confrontée au checkpoint, aux soldats, à la réalité de cette guerre, de cette violence. Et j'y étais donc confrontée très jeune, à un âge où j'étais vraiment très perméable à ces notions de paix et de violence, et je pense que ce qui me donne de l'espoir, cet espoir dont on parle depuis le début de cette interview, c'est quand je regarde aujourd'hui l'histoire de l'Irlande, depuis la fin du XXe siècle et depuis le début du XXIe siècle, c'est qu'aujourd'hui on est à un stade où on a eu 26 ans de paix à ce jour, et quand moi j'étais enfant, quand moi j'étais jeune, ça semblait tout simplement impensable, or aujourd'hui c'est une réalité.
Qu'est-ce que ça signifie précisément la paix pour vous, aujourd'hui, en 2024, Colm McCann?
Wow, ça c'est difficile. what is peace? Is it the absence of war?
C'est quoi la paix, finalement? C'est très compliqué à définir. Est-ce que c'est l'absence de guerre? Est-ce que c'est la capacité à être en désaccord sans verser dans la violence? Est-ce que c'est la capacité à être en paix avec soi-même pour enfin être en paix avec les autres? Je pense que c'est une combinaison d'un peu toutes ces définitions. Je ne suis pas naïf. Je ne pense pas qu'on verra le bout de la guerre un jour. Je ne pense pas que la paix mondiale arrivera, en tout cas pas tout de suite. Et je me rappelle d'une anecdote qui émerge d'une correspondance entre Einstein et Freud dans les années 30. Comme vous le savez, Einstein recherchait une solution pour amener la paix globale. Et il avait écrit à Freud en lui demandant comment on peut faire pour se rapprocher de cette paix mondiale. Et Freud avait répondu, désolé, c'est impossible selon moi. Mais néanmoins, Freud avait quand même rajouté que si on voulait essayer de s'en rapprocher, il fallait commencer à générer une communauté d'engagement, quelque chose qui rassemble les gens. Et je pense que la paix, aujourd'hui, si on peut avoir une petite chance d'y parvenir, doit commencer par là. Il faudrait qu'on commence petit, en fait, qu'on commence par de petites actions. Et les échecs qu'on constate aujourd'hui dans les affaires et dans les conflits courants, je pense notamment aux conflits israélo-palestiniens, sont, selon moi, dues au fait que ces tentatives de paix, elles viennent d'en haut. Or, elles devraient émerger d'en bas, de la base. Elles devraient déjà être présentes dans les histoires qu'on raconte aux enfants, dans la volonté de se connaître les uns les autres et de mieux se comprendre et de se rapprocher. Je pense qu'on se posera toujours la question, pourquoi la guerre? Je pense qu'on ne pourra pas mettre un terme au conflit armé, ou qu'on ne pourra pas mettre un terme à la guerre, mais en tout cas, on peut tenter de la moduler. Je pense qu'on peut
moduler. Il nous faudrait, selon vous, être attentifs à ce qui nous rassemble, nous les êtres humains sur cette planète. Mais qu'est-ce qui nous rassemble, selon vous, aujourd'hui en 2024?
Stories. Storytelling. Listening to the
la
stories.
Fiction.
Peut-être la fiction. I don't know. Fiction and les non-fiction.
Histoires.
Les histoires. Yeah. The stories. I think, look.
Je pense que c'est vraiment les histoires qui nous rassemblent. Alors, les scientifiques nous racontent depuis quelques temps maintenant que la trame de notre monde est composée d'atomes, même si on sait qu'aujourd'hui que ce sont des quarks. Moi, je pense personnellement que la trame de notre monde, elle est composée d'histoires. Ce sont les histoires qui nous lient, ce sont les histoires qui sont les lieux de nos rencontres. C'est là que nous nous rassemblons. Et le problème majeur, ce qui fait que nous sommes coincés aujourd'hui dans ces conflits, c'est le refus d'écouter l'histoire de l'autre, le refus d'écouter sa version de sa propre histoire ou la version qu'on s'en fait. Et c'est la cause de toutes les tensions dont nous sommes témoins aujourd'hui. On pense évidemment au conflit israélo-palestinien, mais on peut remonter plus loin, que ce soit la Nakba, que ce soit l'Holocauste. C'est toujours cela, c'est toujours ce refus d'écouter l'histoire de l'autre. Depuis quelque temps, j'ai cofondé une fondation qui propose à des jeunes de tous horizons de se rassembler, de se rencontrer et simplement de se raconter leurs histoires. Et comment ça se passe? Eh bien, vous et moi, on se rencontrerait dans une de ces séances et vous me diriez bonjour, je m'appelle Pascal, et vous me raconteriez votre histoire. Je vous répondrai bonjour, je m'appelle Colombe, je vous raconterai la mienne. Et ensuite, on bascule dans un jeu de rôle où vous endossez mon histoire et j'endosse la vôtre. Et vous racontez mon histoire et c'est moi qui raconte la vôtre. Et c'est incroyable de constater comment cet acte simple d'écouter l'histoire de l'autre et la restituer ensuite, c'est fou de voir ce que ça peut générer comme empathie immédiate et radicale.
It's about radical empathy, I suppose.
Pour mieux connaître nos invités, nous leur demandons de choisir un selfie sonore, un son en guise d'autoportrait. Alors, nous écoutons le son qui vous ressemble, Colin McCann. Voilà, vous nous avez écrit « Je suis comme le son d'une bouteille de vin qui s'ouvre et peut-être de la dernière bouteille qui se crache sur le sol ». C'est-à-dire, expliquez-nous, Colm McCann.
C'est un petit blague. I suppose it's a small little joke.
Oui, c'était un peu une plaisanterie, mais il y a quand même un fond de vérité symbolique dans ce choix. Déjà, je voulais dire que c'était une question magnifique que je m'étais jamais posée, et je me suis demandé comment répondre à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire quand il y a tellement de choses à dire quand il faut se présenter, quand il faut raconter qui on est. Et j'avais envie de parler à la fois des moments de rupture, des moments où on se sent brisé, et des moments de joie. Et le symbole qui m'est venu à l'esprit, c'est cette bouteille de vin, qu'on ouvre, ce vin qu'on boit pour célébrer, et peut-être aussi cette bouteille qu'on fait exploser de dépit ou de joie, ça dépend.
Vous aimez l'ivresse, Colm McCann?
That's what I was going to say. I'm such a stéréotype.
C'est exactement ce que j'allais répondre. En fait, les gens vont écouter ça, ils vont se dire, mais mon Dieu, quel stéréotype de l'Irlandais qui aime picoler. Mais en même temps, c'est vrai que voilà, j'aime les bonnes choses de la vie. J'aime me détendre et je crois sincèrement qu'encore une fois, pouvoir se raconter des histoires rassemblées autour d'une bonne bouteille, c'est une des joies de la vie. Et c'est ce que je suis, c'est ce que j'aime. Et tant pis pour les stéréotypes.
Yeah, I'm a stereotype, but it's true.
Allez, venons-en à American Mother, votre nouveau texte écrit avec Diane Follet, la mère de ce journaliste américain torturé et décapité par Daesh. James Follet a lu l'un de vos précédents livres, une photo en témoigne, on vous l'a envoyé après sa mort, ça vous a touché. Alors vous avez écrit un courriel à sa mère, mais elle ne l'a pas vu, elle ne l'a pas lu, c'est seulement en 2020 que vous allez entrer en contact avec elle. Pourquoi teniez-vous à la rencontrer ? Vous avez discuté pendant 2 jours ensemble.
Cette photo, elle m'a vraiment marqué. Et il faut revenir d'abord à une autre photo, celle de Jim lui-même, voilà, à genoux dans cette combinaison orange dans le désert, entouré d'hommes armés. Cette photo, elle est devenue tristement et mondialement célèbre. C'est même devenue une photo iconique. Elle a fait la une de tous les médias. Vous l'avez sans doute vue, vous l'avez sans doute reçue vous-même dans vos boîtes mail. Et j'ai reçu moi cette photo le jour où Jim a été décapité, mais plus tard ce soir-là, un de mes amis a trouvé une autre photo de Jim sur internet, celle où il tenait un de mes livres qu'il était en train de lire. Et ce qui m'a bouleversée, ce qui m'a touchée, c'est que j'ai pas pu m'empêcher de penser que cet homme qui avait été brutalement décapité, eh bien, certains des mots que j'avais écrits étaient dans sa tête, étaient restés dans sa tête, et je ne savais pas quoi faire de cette émotion qui me traversait à ce moment-là. Et finalement, c'est presque le destin qui nous a rassemblés, Diane et moi, parce qu'elle cherchait quelqu'un pour l'aider à écrire son histoire. Et je pense que moi, quelque part, je cherchais à écrire sur Jim pour pouvoir transformer cette émotion, cette double émotion, finalement, la douleur de cette première photo et puis la beauté de la seconde photo que j'avais reçue.
Extrait de votre livre. Certains l'ont décrite comme une sainte. Figurez-vous ça, une sainte. Elle l'a entendue un bon nombre de fois et ça la dérange profondément, fait monter le rouge à son visage. Pour elle, il y a quelque chose de honteux dans cette admiration. Elle sait qu'elle est tout sauf une sainte. Est-ce que cette femme, qui croit en Dieu, il faut le préciser, et vous en parlez d'ailleurs beaucoup de sa foi dans votre texte, est une sainte à vos yeux, Colm McCann?
She says that she's not a saint.
Diane dit qu'elle n'est pas une sainte, d'autres personnes le prétendent. Moi, j'aurais tendance à être d'accord avec elle. Mais par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que chez elle, il y a une forme de foi profonde, une profondeur spirituelle qui est vraiment frappante. Alors, d'autres personnes disent que c'est son fils qui était un saint, que James était un saint. Moi, je pense qu'il n'était pas un saint, c'était un journaliste, c'était un raconteur d'histoire. Le fait d'avoir été exécuté ne fait pas de vous un saint. Par contre, il y a certains aspects de sa vie, certains éléments de toute cette histoire qui, eux, sont sanctifiables en un sens parce qu'ils ont profondément remodelé, changé la façon dont on voit les choses, en tout cas aux États-Unis, la mentalité, peut-être la façon dont on prend en compte et on raconte aujourd'hui tant les affaires de prise d'otages que les otages eux-mêmes et la façon aussi dont on prête attention à la narration même des histoires et des faits. Donc, pour répondre à votre question, Diane Foley est-elle une sainte? Je répondrai presque pas. Jim était-il un saint? Là, je répondrais non.
Je me suis posé la question en vous lisant, est-ce que sans la foi, elle aurait tenu?
It's another great question. I think she would have.
Je pense que oui. Je pense qu'elle vous répondrait autrement. Je pense qu'elle vous dirait que la seule chose qui l'a fait tenir, c'était justement sa foi. Mais personnellement, j'ai détecté autre chose chez elle, une profonde humanité. Et c'était passionnant, en fait, de passer autant de temps auprès d'elle et d'essayer de comprendre, en fait, son rapport à la foi et son rapport à Dieu, parce qu'on a chacun un rapport à la foi et à Dieu qui diffère. Et j'ai vraiment trouvé que son rapport avec Dieu, son rapport à la foi, méritait qu'on écrive à ce sujet. Alors, Diane vous répondrait que, encore une fois, que la foi est la seule chose qui a pu la faire tenir. Je pense personnellement que même sans ça, elle serait arrivée debout au bout de cette histoire.
Vous avez un Dieu, vous, Colm McCann?
Oui, je pense. Enfin, je devrais répondre « je ne sais pas » parce qu'en fait, je ne suis pas sûre à 100%. Je pense que la certitude est une des grandes maladies de notre siècle et moi, je préfère douter. Mais je pense pas, quand je pense à Dieu, je ne pense pas à Dieu comme un homme ou une femme ou un être, une entité comme ça sur les nuages et qui tire les ficelles de nos vies. Par contre, j'ai tendance à trouver de la divinité dans toutes les rencontres humaines que je fais au quotidien. Peu importe d'ailleurs la nature, le caractère et le tempérament des gens que je rencontre, il y a toujours une part de divinité en elle ou en eux. D'ailleurs, la preuve, c'est que Diane elle-même a trouvé de la divinité dans l'assassin de son propre fils. On a quand même passé 3 jours avec cet homme, assis face à face à une table, à lui parler. Et elle a réussi à trouver en lui, en cet homme qui avait tué son fils, elle a réussi à en dégager de la compréhension et une certaine dose de bonté. Pour moi, c'est vraiment ce qui rend cette histoire extraordinaire. C'est presque un mythe contemporain à mes yeux. L'histoire de cette mère qui va rencontrer l'assassin de son fils pour lui raconter son histoire et essayer de lui faire comprendre ce qu'il lui a ôté. Tries to get the killer to understand
what he took away from the world. Son fils n'est plus depuis 7 ans et ce matin elle va s'asseoir avec l'un de ses assassins. Quelques pages plus loin, cet homme-là, pense-t-elle, à moins d'1,20 m de moi, il a frappé mon fils, il a participé à l'exécution. Là, tout près, devant moi, elle sent presque son souffle glisser sur la table. Vous l'avez dit, vous avez donc accompagné Diane Foley dans la prison où est détenu l'un des auteurs de la mort de son fils. 3 rencontres ont eu lieu. À chaque fois, vous l'avez précisé, vous étiez là. Pourtant, vous n'apparaissez pas dans ce texte. Pourquoi vous êtes-vous effacé? Pourquoi vous êtes-vous cancelé, Colm McCann?
It's a good question. I cancelled myself.
Alors c'est vrai, je ne suis pas présente dans ce livre. Je me suis un peu, en quelque sorte, effacée simplement parce que je ne voulais pas être un personnage de cette histoire. Il y a déjà deux personnages principaux qui sont très forts, Diane et Jim. Je ne voulais pas leur prendre la lumière, ce n'était pas du tout le but. D'autant plus que je savais que je pourrais en parler hors du livre. D'ailleurs, je suis en train de le faire là maintenant. Donc il n'y avait aucune nécessité de me mettre en scène à l'intérieur du récit. Je voulais vraiment que le lecteur soit aux côtés de Diane, aux côtés de Jim. Et à la limite, je suis un peu un bruit blanc à la marge, mais il était hors de question que je sois au centre de l'histoire, et ça me va très bien. Du reste, je ne me trouve pas très intéressant. Je peux parler de moi quand il le faut, mais je préfère de loin raconter les histoires des autres.
But in general, I'm much more interested in other people.
Vous dites, ça n'est pas mon histoire, mais en même temps, vous l'avez influencé, cette histoire, par votre présence.
Yeah, of course. Yeah, I did.
C'est vrai que j'ai influencé l'histoire d'une certaine façon. C'est moi qui ai posé les questions les plus difficiles, par exemple, à l'assassin de Jim. C'est moi qui lui ai demandé s'il avait tué Jim Foley. C'est moi qui lui ai demandé s'il lui avait ouvert la gorge avec un couteau. Toutes ces questions que Diane ne voulait pas ou ne pouvait pas poser elle-même. Alors, c'est vrai, j'étais là. Ça n'apparaît pas forcément dans la narration, mais même si je ne me suis pas inscrit dans le livre, ça reste néanmoins un portrait honnête et fidèle de ce qui s'est passé durant ces 3 jours.
Diane Foley, elle dit dans le livre que dans un autre contexte, son fils et ce terroriste auraient pu être amis. Comment parvient-elle à penser ça ?
It was an amazing moment.
C'était un moment vraiment incroyable. C'était à la pause café, c'était la première journée de ce terrible entretien. Et toute la matinée, pendant toute la session, déjà Diane n'avait fait que l'appeler par son prénom. Elle l'appelait Alexander à chaque adresse. Et puis au moment de cette pause, elle s'est levée de sa chaise, elle l'a regardée droit dans les yeux et elle lui a dit « Désolé, mais il faut que je te le dise, toi et mon fils, vous auriez vraiment pu être amis ». Et elle était sincère, en fait, à ce moment-là. Et c'est vrai que Alexander Cutty nous a vraiment surpris. Moi, je m'attendais à me trouver en face d'un hooligan, d'une personne assez ignorante, incapable d'expliquer même les fondements de l'islam. Or, c'est quelqu'un de très intelligent, de beaucoup plus intelligent que l'idée que je m'en faisais. D'ailleurs, il a beaucoup d'empathie, il est assez charismatique, il était même assez séduisant, en tout cas sur le plan intellectuel. Je pense qu'il était d'ailleurs très conscient de sa propre intelligence. Il se croyait d'ailleurs la personne la plus maligne dans la pièce. Or, en vrai, c'était plutôt Diane, parce que elle nous surpasse tous en termes d'intelligence émotionnelle. Mais il est vrai que je pense qu'elle avait raison quand elle a dit ça. Jim aurait aimé pouvoir parler à Alexander, s'adresser à lui en tant que terroriste, mais aussi pouvoir parler à son bourreau, à l'homme qui l'a exécuté. Alors, je ne veux pas verser dans des considérations un peu trop spirituelles, mais il s'est passé vraiment un truc étrange lors de cette confrontation, de ces entretiens. C'était un peu comme si il y avait une partie de l'esprit de Jim qui parlait à travers moi, à travers nous. Et il faut quand même rappeler qu'il y avait beaucoup de gens dans cette pièce. Il y avait le FBI, il y avait des gardes, il y avait les avocats de la défense, il y avait cet homme enchaîné, menotté face à nous. Néanmoins, à partir du moment où on a commencé à discuter, il n'y avait plus que 3 personnes dans la pièce. Il y avait Diane, Alexander et moi. Et à l'issue de cette première matinée, à la pause café, Diane et moi, on s'est vraiment regardé et presque simultanément, on s'est dit « Waouh ». C'est bizarre, mais je pense que ce gars, en fait, je l'aime bien. Ce qui est encore plus fort à dire que je pense que je ne le déteste pas.
Ça pourrait être votre ami ?
Yes, absolutely.
Sans hésitation.
Sans hésitation, non. He definitely could be my friend.
Clairement, ça pourrait être mon ami. Alors, je ne lui ferais pas confiance, je serais sans doute très vigilant vis-à-vis de lui. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé à la minute où on s'est regardé. Je pense sincèrement qu'on a vu qu'on s'appréciait. Et pour vous relater une anecdote assez folle, il avait un livre posé à côté de lui sur la table, un livre de poche. Alors, je dois rappeler qu'il n'avait aucune idée de qui j'étais. J'étais là en tant qu'ami de la famille, donc il ne connaissait pas mon identité. Et le livre qu'il avait avec lui, c'est un livre intitulé « Say Nothing » de Patrick Radden Keefe, qui est un journaliste qui a écrit sur l'Irlande du Nord. Et sur la quatrième de couverture de ce livre de poche, il y a une recommandation que j'ai écrite, moi, pour ce livre, en disant que c'est un des meilleurs ouvrages qu'on a écrit sur l'Irlande du Nord. Alors, ça n'a que peu d'importance. Il ne savait pas qui j'étais, mais néanmoins, c'est quand même une coïncidence assez folle. Et on a quand même un terreau commun malgré nous. Je suis irlandais, il est anglais, de la classe ouvrière, il est fortement opposé au gouvernement britannique. Il a dû ressentir certains ferments de ça en moi. J'ai passé du temps en Palestine, il a passé du temps dans la bande de Gaza. Bref, c'était un peu comme un jeu d'échecs entre adversaires qui s'estiment finalement, où chacun pousse un peu ses pièces. Et ça reste un combat, ça reste une confrontation, mais il y a une certaine forme d'estime mutuelle et de respect. Mais je dois dire qu'à la fin de la partie, celle qui nous a tous surpassés, encore une fois, c'est quand même Diane.
The chess master was Diane Foley.
Vous avez parlé de l'esprit de James Foley qui régnait pendant certains moments de ces rencontres. Ma question est peut-être surprenante, mais est-ce que pour vous, James Foley est toujours vivant, Colm McCann?
Yes, again, yes.
De quelle manière?
Death takes away a lot of things.
La mort nous enlève beaucoup de choses, mais elle ne nous enlève pas nos histoires. Ça, j'en suis convaincue. Je pense que quand on meurt, l'influence qu'on a ou qu'on a pu avoir, elle persiste, elle demeure, elle reste dans l'air. Et c'est d'autant plus vrai quand on parle d'une personne exceptionnelle comme l'était Jim. Cette influence, elle reste, même si Jim ne marche plus sur cette terre, que je n'aurai jamais la possibilité de m'asseoir à un bar avec lui. Il est là et il demeure dans ma tête, il demeure dans mon cœur, dans la tête et dans le cœur de Diane aussi. Et maintenant qu'on a pu raconter son histoire, maintenant qu'elle existe, qu'elle est imprimée sur papier... J'ai même envie d'aller plus loin. Je pense que Jim est toujours vivant, y compris dans le cœur de la personne qui l'a exécuté, dans le cœur d'Alexander Coty. Et je trouve que c'est incroyable, encore une fois, ce fait de cette mère qui se rend auprès de l'homme qui lui a enlevé son fils et lui dit « Mon fils est encore vivant. Au final, tu n'as pas gagné. »
J'aimerais devenir sage. C'est ce que dit à un moment Alexander Coty. Et Diane Foley répond « Vous avez un grand potentiel, Alexander. » Est-ce que vous le pensez? Et de manière plus large, est-ce que vous pensez que nous avons toutes et tous ce potentiel de devenir sages, Colm McCann?
I don't know.
Encore?
Yeah, encore. Could he become a wise man? He has yet the potential, but I don't think he will.
Je pense que
his mind is too poisoned.
Alexander
with the narrowness
a le potentiel
of his
pour devenir plus sage. Est-ce qu'il le deviendra? Je ne pense pas, parce que je pense que son esprit, à l'heure actuelle en tout cas, bien trop empoisonné par l'étroitesse de ses certitudes. Après, il est actuellement enfermé dans une cellule, dans une prison du Colorado. Il est enfermé, et c'est horrible, dans une cellule dans laquelle il passe plus de 23 heures par jour, 23h30 par jour. Je pense pour ma part que c'est un traitement injuste. Ça peut changer, peut-être qu'un jour ça changera. Après, pour répondre à votre question, a-t-on tous et toutes la capacité de devenir sage ou de devenir plus sage? Non. Certaines personnes l'ont, d'autres ne l'ont pas. Et c'est comme ça. Et pendant toute la rédaction de ce livre, j'avais en tête un ancien mythe hébreu qui nous parle de ces 36 individus qui portent en elles et sur elles les tourments et les chagrins du monde. Et l'une de ces personnes porte ses chagrins comme les autres, mais c'est la seule à avoir perdu la capacité de communiquer avec Dieu. Et c'est précisément cette personne-là qui est la plus sage d'entre toutes, parce que ce qui lui fait porter les péchés du monde, c'est simplement sa propre humanité.
Est-ce que vous êtes sage, vous?
I don't know. I think the wise person knows that.
Je ne sais pas si je suis sage. Généralement, les personnes qui sont sages ne se disent pas sages, mais en tout cas, je suis assez sage pour savoir qu'il existe plus sage que moi sur cette terre.
That there are people who are much wiser than me.
Il faut quand même que je vous pose la question, question à mon avis que tous les journalistes vous posent, vous qui avez écrit un livre sur le conflit israélo-palestinien, comment vous sentez-vous depuis le 7 octobre 2023?
Yeah, well, it's a tough one, right?
C'est effectivement très compliqué. Quand je pense à Rami, à Bassam, j'ai le cœur brisé, je suis en colère, je me sens perdue et je pense qu'ils ressentent la même chose que moi. Mais je suis convaincue par contre de l'inévitabilité de la fin de cette guerre. La guerre doit finir, forcément. Il y aura une fin. La question c'est quand, comment, dans combien de temps et comment on obtient un cessez-le-feu, comment on arrive à interrompre cette guerre de la façon la plus humaine possible. Et je reviens à la citation de ce début d'interview. Y a-t-il une possibilité de trouver de la consolation dans ce chagrin? En l'occurrence, non. Mais si Bassem était ici avec nous en ce moment, il vous dirait qui aurait cru que 20 ans après l'Holocauste, il y aurait une ambassade allemande à Tel Aviv et une ambassade israélienne à Berlin. Donc il faut croire à l'impossible. Et je pense que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de pensées fraîches, c'est d'un groupe de personnes sans doute plus jeunes que nous qui viennent avec des solutions, qui viennent avec une autre façon de raconter l'histoire et qui nous sortent de ce terrible mauvais pas.
Some sort of solution.
Et on écoute Colm McCann, le son qui vous procure des frissons. Qu'est-ce que c'est?
The foghorn. It's you know, I've been writing a little bit.
C'est donc une
corne
de brume. Alors depuis quelque temps, je fais beaucoup de recherches et j'écris beaucoup sur les marins, sur les personnes qui travaillent en mer pour un nouveau projet. Et j'aime beaucoup ce son de la corne de brume, notamment pour ce qu'elle nous dit sur le plan de la métaphore. Une corne de brume, après tout, c'est ce qui vous alerte quand vous êtes au large sur où se trouvent les bancs de brouillard, où se trouve la côte. Et je pense que ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est une corne de brume géante pour nous alerter sur la direction que nous sommes en train de prendre. Donc c'est un son à la fois très solitaire, mais qui permet aussi de réduire la solitude.
It reduces the loneliness a little bit.
Merci, Colm McCann, pour cette rencontre. Votre nouveau livre, réalisé avec Diane Follet, a pour titre American Mother, et ça vient de sortir aux éditions Belfond. Merci, bonne journée.
Merci à vous.
La première.
Dans quel monde on vit ? Pascal Claude.
Je vous souhaite le meilleur des week-ends dans Quel monde on vit, deuxième partie. C'était un mardi d'hiver, en fin d'après-midi, avec Julien Demeuse. Nous étions à Tervuren, en Flandre, pas loin de l'Africa Museum. Le journaliste Christophe Boltanski nous avait fixé rendez-vous devant une petite église. Bonjour Christophe Boltanski.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est pas par hasard si nous sommes ici. Hein, vous signez un livre dans lequel vous racontez cette nuit passée au musée de Tervuren. Nous irons ensemble dans quelques minutes. Mais si nous sommes là, c'est parce que votre livre s'ouvre ici, ce qui est étonnant. Et vous vous dites même, tiens, c'est peut-être ici que j'aurais dû passer ma nuit. Vous allez nous expliquer pourquoi.
Oui, effectivement, ma nuit commence ici, vers autour de 22h. On est à la fin août 2020, devant donc l'église de Saint-Jean l'Évangéliste de Tervuren. Et je m'arrête au pied de cette église parce que finalement la préhistoire du musée où je vais passer la nuit, elle se trouve ici. Je vais vous montrer...
Face à quelques noms.
Face en fait à sept noms qui sont à moitié effacés par le temps et qui sont inscrits sur des pierres tombales, des tombes grises qui sont pas toutes identiques, alignées à l'extérieur, le long de la nef de l'église.
Allons-y.
Alors, en pleine nuit, en fait, il y a des spots lumineux un peu orangés qui donnent une ambiance un peu gothique comme ça, qui éclairent l'église, mais qui éclairaient en fait les murs et les vitraux et qui laissaient dans l'obscurité ces tombes sur lesquelles on peut lire parfois les noms, hein, Kitukwa, Pemba.
On va les citer, ces sept noms.
Ekia, Mpeya, Zao, Mibangé et Sambo. On voit également écrit l'origine d'où ils arrivent. Donc là, il y a marqué Bakongo pour Zambo. Et à chaque fois, il y a la même date, 1897.
1897, pas de date de naissance.
Pas de date de naissance, qu'une date de mort qui est commune à ces sept personnes. Il s'agit en fait de gens qui ont été emmenés de force en 1897 pour l'exposition universelle de Bruxelles avec 200, au total ils sont 267 Congolais à avoir été amenés dans le parc de Tervuren pour prendre place dans ce qui était des sortes d'un véritable zoo humain. Mmh. Donc on a reconstitué 3 villages et pendant 2 mois, ils vont devoir mimer ce qui est censé être leur vie quotidienne. Donc pour les certains, pagayer sur les étangs, ou d'autres jouer du tam-tam devant une foule absolument considérable, hein, parce que cette exposition va drainer des dizaines de milliers de visiteurs.
Où dormaient ces personnes ?
Elles dormaient dans les écuries. Dans les écuries qui se trouvent un peu plus loin, de l'autre côté de l'arche en brique que l'on voit d'ici.
Ouais. Et elles passaient des journées en Belgique, dans un parc, parfois sous la pluie.
En fait, cet été-là, je crois que c'est un été pourri, comme on dit. Donc il fait très froid, très humide, il pleut énormément. Et donc beaucoup vont tomber malades. Pneumonie, grippe, et 7 d'entre eux vont décéder et vont être, dans un premier temps, jetés dans une fosse commune, quelque part dans le parc. Et ensuite, mais bien plus tard, dans les années 50, comme parmi les morts figurent également des anciens soldats de ce qu'on appelle la force publique, hein, qui était la milice du roi Léopold II au Congo. Donc ces soldats de la force publique vont demander à ce qu'il y ait un lieu un peu plus convenable pour en leur mémoire. Et donc on va dresser ces tombes, mais qui sont en fait ce qu'on appelle des cénotaphes.
C'est ça.
C'est-à-dire des tombes vides.
Vous auriez pu passer la nuit ici.
J'ai envisagé de passer la nuit ici. Je suis resté quand même un petit bout de temps devant ces tombes. Voilà, parce que c'est intriguant quand même de se dire qu'il y a presque hier, hein, donc il y a juste un siècle, on a pu exposer des êtres humains comme on expose des animaux. Comme il pleuvait énormément, on a fini par construire des estrades et une sorte de coursive qui permettait au public de voir ces gens sans patauger dans la boue. Donc c'était vraiment, ils étaient comme dans une fosse. Et il y avait une pancarte, parce que des gens avaient commencé à jeter de la nourriture, disant inutile de leur donner à manger, ils sont déjà nourris par nos soins.
Bon, et là on va tout doucement se diriger vers l'Africa Museum. On y va en tram, on y va à pied ?
Moi j'y étais allé à pied, mais c'est comme vous voulez. Hein,
c'est vous le guide. Hein.
Très bien, moi, je vous emmène alors.
On y va. Marie-Pascale Legrel, la responsable communication du musée, nous attend à l'entrée.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, j'ai beaucoup aimé votre livre.
Merci beaucoup, ça me fait très plaisir.
On va s'enregistrer pour pouvoir sortir après la fermeture du musée.
D'accord.
Oui.
Ça s'éteint à 17h pile dans le musée ? Mais qu'est-ce qu'on on préfère que ce soit éteint 17h ?
Oui.
Oui, on sera dans le noir, pas de problème. C'est prévu. Oui. On y va ?
Oui.
Vous voulez aller à l'éléphant ?
Et grâce à quelques raccourcis, nous rejoignons rapidement l'éléphant des savanes. L'éléphant empaillé, surnommé King Kassai par Christophe Boltanski.
C'est vrai qu'il a, une présence, hein, cet éléphant. Il a un côté très, très, très plissé, très vieux. Il a des trous dans ses oreilles et ce regard... un petit peu absent. L'éléphant, c'est un peu un cliché, hein, sur l'Afrique. Ouais. On associe souvent l'Afrique aux éléphants, alors que quand vous allez en Afrique, des éléphants, vous en voyez quand même très, très, très rarement. Mais pour moi, c'était aussi un autre symbole qui était ce que j'avais lu sur cet éléphant. Je savais que c'était un mâle solitaire qui avait été chassé de son troupeau, qui avait été pisté pendant des semaines pour être tué à la demande du musée, hein, parce qu'il voulait, pour l'exposition universelle cette fois de 1958, il voulait des animaux, quelques animaux remarquables, et cet éléphant est particulièrement grand. Il doit faire, je sais pas, 4,5 mètres de haut. J'ai lu, en fait, que cet éléphant, quand il a été tué, n'avait qu'une seule défense. Et là, vous en voyez, il en a deux. Donc, sans doute, on a dû tuer un deuxième éléphant pour reconstituer cet éléphant dans sa plénitude. Donc, la deuxième défense vient d'un autre animal.
Quand je regarde longuement quelqu'un, je finis toujours par m'identifier à lui. C'est ce que vous dites au moment où vous parlez de King Kassai. Il vous a tendu quel miroir, en fait ?
Il m'a tendu le miroir d'un être immensément vieux, voilà, j'ai plus de 50 ans, je suis un homme blanc et qu'on est aussi des sortes d'éléphants promis à un peu à un cimetière. Donc,
c'est joyeux.
Quelque chose d'un peu caricatural, sans doute, hein, mais c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a quelque chose de, il y a une parabole sur l'homme blanc qui transparaît dans cet animal, parce que chasser l'éléphant, c'était aussi pour les hommes blancs qui étaient les chasseurs professionnels la panacée. C'était parce qu'il fallait un animal qui soit à sa hauteur, hein, voilà, quelque chose qui vous grandit. Et donc, il fallait absolument dans les safaris avoir tué au moins une fois un éléphant. Un éléphant d'Afrique.
Là, ici, c'était jadis l'entrée du musée, en fait.
Oui. C'est évidemment une des questions qui m'a le plus tarabusqué, c'est pourquoi cette entrée a-t-elle été condamnée dans la mesure où, moi, je viens de Paris, et c'est vrai que c'est le même architecte que celui du Petit Palais à Paris, donc avec cette fameuse rotonde, très belle entrée, ce perron face au jardin. Et donc, ces travaux de rénovation ont eu comme résultat donc, de construire une nouvelle entrée à 100 mètres de là, avec un dispositif assez compliqué, puisque la première chose qu'on fait, c'est de plonger dans les entrailles de la terre.
Ouais, on va y aller juste après.
Et d'emprunter un souterrain pour ressurgir à l'intérieur du musée. Donc, j'ai compris en fait que, sans doute, une des raisons invoquées, ça a été une gestion des flux, peut-être plus efficace, un peu à la manière du Louvre. Hein. Vous savez, il y a aussi ce dispositif un peu qui est semblable. Mais je pense qu'une des raisons, c'est parce que cette rotonde était sans doute l'endroit le plus chargé de son passé colonial. Alors, quand j'arrive de nuit, ce passé colonial, je ne le vois pas, parce que tout ça est dans le noir. Mais au petit matin, je vais dormir une heure et demie, et je vois que le soleil, enfin, c'est un temps relativement gris en fait, comme aujourd'hui, s'est levé, et donc je vais enfin pouvoir contempler ces statues qui sont assez incroyables.
Des statues coloniales.
Ce sont des allégories, en bronze laminé, donc elles sont dorées. Hein, et à chaque fois, il s'agit de la Belgique, mais d'une Belgique incarnée par une guerrière, par un père missionnaire, par une madone, et qui à chaque fois apporte la civilisation, la sécurité, la sûreté au peuple congolais, qui est toujours montré sous les traits d'enfants et en général nu. Donc évidemment le cliché colonial et saute aux yeux, mais moi ce qui m'avait intéressé, c'est pour ça que j'avais voulu passer la nuit dans ce musée, c'est quand j'avais appris que ce musée avait été fermé pour travaux afin d'être officiellement décolonisé. On parlait de Tervuren comme du dernier musée colonial au monde, peut-être à tort ou à raison, hein, mais et je me suis demandé comment on faisait pour décoloniser un musée colonial. Est-ce que c'était en ajoutant, en soustrayant, en cachant, en montrant, en expliquant, enfin, quel dispositif on pouvait déployer pour cela ?
On a des éléments de réponse ici, puisque là, au milieu de cette rotonde, il y avait une grande statue.
Oui. En fait, quand vous arriviez, vous aviez, je crois, ici la guichetterie hein, pour acheter les billets. Et là, au milieu de la rotonde, sur cette étoile qui était le symbole de l'État indépendant du Congo, vous aviez un buste de Léopold en ivoire, taillé dans l'ivoire, cet ivoire qui avait fait sa fortune. Et effectivement, ce buste, en tout cas, n'est plus là. On va le découvrir, il n'est pas très loin d'ici. Ouais. Mais
vous êtes en train de marcher sur Léopold II, quoi, autrement dit.
Je marche sur le symbole de Léopold II. Et j'ai au-dessus de ma tête, un peu partout, le monogramme de Léopold II. Vous voyez ces ailes, ces deux ailes inversées qui recouvrent toute la rotonde. Je crois qu'on a compté qu'il y en avait au total près de 45 monogrammes. Donc il a marqué de son sceau absolument chaque pièce du musée. C'est étonnant d'ailleurs, quelqu'un qui veut à ce point montrer que ce lieu lui appartient.
Il est 16h58. Normalement, les feux s'éteignent dans moins de 2 minutes. Où est Léopold II désormais ?
Alors, Léopold II, si les choses n'ont pas changé depuis, se trouve un petit peu plus loin, dans cette salle qui fait face à Kinkasa. Il y a l'éléphant qui est une salle dédiée aux ressources.
Et vous avez cette phrase, Léopold II n'est plus qu'un bibelot parmi d'autres.
Ben là, effectivement, il est un bibelot à côté d'une défense d'éléphants. Là, on a rajouté effectivement des sortes d'échantillons de bois, des roches. Oui, tout à fait.
Ah ben voilà, les lumières viennent de s'éteindre. Nous sommes dans le noir.
Là, nous sommes dans le noir, oui.
Vous retrouvez
Je retrouve
votre climat d'antan.
Absolument. Bon, il y a encore une toute petite lueur blanche, parce qu'on est
du jour,
mais absolument. Et bon, évidemment, dans le noir, tout paraît différent. J'ai d'abord traversé cette pièce, découvert tous ces animaux, les uns après les autres. J'ai déployé mon fatras pour m'approprier les lieux. Je fais la même chose quand je suis dans une chambre d'hôtel. J'ai commencé à regarder fixement cet éléphant. Et là, à ce moment-là, j'ai sursauté parce que j'ai entendu une voix. Et dans un lieu quand même totalement désert, cette voix me disait « A lot of children died ». Donc, beaucoup d'enfants sont morts. Vous imaginez, c'était assez glaçant. Ouais. Et là, je me suis quand même relevé. J'étais en chaussette, j'ai traversé la rotonde et j'ai essayé de comprendre d'où venait cette voix. Et tout au fond de cette galerie qu'on aperçoit, j'ai découvert une petite salle de cinéma avec un écran et un banc et passé en boucle. Un petit film qui traitait du génocide au Rwanda. Donc c'était en fait un enfant qui parlait des victimes du génocide rwandais.
Ce que je vais vous proposer, c'est que nous retournions à l'entrée du musée pour se remettre dans les conditions de votre visite, puisque là maintenant, il fait noir et tout est éteint. Voilà, ça c'est le sens de la visite, Christophe Boltanski. On est à l'entrée, et ça vous a étonné, c'est de descendre dans les entrailles.
Oui, on descend dans les entrailles en empruntant un escalier incroyablement abrupt. De nuit, il faut imaginer, je m'accroche donc à la rambarde métallique, et pour donc déboucher sur cet immense couloir.
Et ce couloir, c'est un passage obligé pour les visiteurs. Ils y découvrent la plus grande des pirogues conservées au musée.
Du souffle de la soufflerie.
Sa longueur est d'environ 22 mètres. Et sur le mur, cette phrase inscrite en 6 langues, « Tout passe, sauf le passé ».
Donc on vient de remonter les marches. On est toujours dans les sous-sols, on doit être au niveau -1.
Et cette fois-ci, on est complètement dans le nord.
Et là, on est totalement dans le noir. Et là, on rentre dans une salle voûtée, où on aperçoit quand même dans cette pénombre des silhouettes. Ouais. Là, je vais prendre mon iPhone quand même pour
utiliser
l'icône.
On est équipé.
En
une petite lampe.
Vous êtes beaucoup mieux équipé que moi.
Petite lampe frontale dont je me munis à l'instant. Voilà.
Et là, donc vous,
on aperçoit.
Vous apercevez des statues, des bustes. Certains bustes sont en marbre blanc, des statues, d'autres qui sont des plâtres vernissés de noir. Et quand on regarde plus attentivement, on aperçoit donc des indigènes, mais conformes à tous les clichés racistes de l'époque. Il y a un homme qui tient un couteau. Qui a l'air extrêmement menaçant, un autre qui reçoit des coups
et qui est nu et qui est replié sur lui. Là, c'est très impressionnant. Ce sont des moulages sur le vif. Ça, j'ai mis un certain temps avant de comprendre pourquoi tous ces gens fermaient les yeux. Parce qu'en fait, on avait donc appliqué sur leur visage du plâtre pour prendre l'empreinte de leur visage à des fins d'anthropologie raciale. C'est parce ça, que l'idée que, voilà, que chaque groupe humain avait des traits morphologiques spécifiques.
Et en dessous,
on voit des hommes en uniforme avec des barbes, des moustaches impressionnantes.
Les hommes blancs, les...
Ce sont des hommes blancs.
Les coloniaux.
Et ce sont voilà, des généraux d'empire. Hein. Ce sont des officiers qui ont... on ne sait pas trop exactement pourquoi, qui sont ces gens d'ailleurs. Il n'y a pas d'explication. Il y a quelque part... attendez, c'est ici, voilà, une pancarte qui explique que ces statues sont en dépôt, que le musée a ainsi joué un rôle important dans la perception stéréotypée que le public avait de l'Afrique, hein, voilà, et que ces statues n'ont plus leur place aujourd'hui dans le musée, parce qu'elles témoignent des préjugés, des stéréotypes profondément ancrés et qui ont contribué au racisme dans nos sociétés modernes. Mais c'est tout. On a cette explication générale. Mais,
c'est pas
mais
assez.
Bah, on aimerait savoir qui sont ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je le découvrirai plus tard. Cet homme-là qui est juste devant nous, c'est ce fameux Émile Storm, celui qui a décapité ce chef qui s'appelait Lusinga. Et Storm a laissé des écrits où il disait, quand il voyait des ennemis, parce que c'était une guerre, il disait, ben voilà, leur tête ferait très bien, justement, avec épinglée dans un musée. Il était lui-même un membre éminent de la Société d'anthropologie de Bruxelles. Et puis...
Il y a l'homme léopard aussi.
Voilà, il y a cette statue qui est très impressionnante de cet homme recouvert d'un déguisement, la tête... qui lui recouvre la tête et le torse d'un déguisement en peau de léopard. Et il a également au bout des doigts des fines tiges de métal, donc des griffes terrifiantes. Et il est penché sur un jeune homme endormi. Et donc c'est la fameuse statue de l'homme léopard, qui était aussi une statue iconique du musée qu'on l'on retrouve exactement dans la même posture dans Tintin, les aventures de Tintin au Congo.
Ouais.
Donc effectivement, en pleine nuit, je me retrouve avec tous ces étrangers. Je ne sais pas trop qui ils sont, mais celui-là, je le reconnais. Il m'est familier. Ouais. Et ça me renvoie tout de suite à l'univers de Tintin.
Et à une question plus générale, pourquoi aborde-t-on toujours cette partie du monde par le bas ? L'Afrique souffre d'une sorte de mal des profondeurs.
Oui, c'est vrai qu'on a tendance à toujours appréhender l'Afrique de haut en bas, comme si l'Afrique était ramenée toujours à ses couches les plus profondes, à quelque chose de ténébreux, aux origines, à quelque chose, à un substrat. Et ça aussi, ce sont des clichés qu'on a sur l'Afrique. Donc effectivement, je comprends bien les contraintes spatiales qui ont prévalu à la décision donc de ménager ce long couloir, mais il y a une symbolique qui est que on appréhende ce musée d'abord en descendant dans les profondeurs de la Terre
et peut-être dans celle de l'inconscient.
Et dans celle de l'inconscient, absolument. C'est les sous-bassements de notre mémoire. Et ce cimetière de statues, il se trouve justement dans les caves.
La grande nuit, c'est celle de la mémoire coloniale, dans le fond. Pardon de vous éclairer avec ma lampe frontale.
Oui, absolument. Cette longue nuit, c'est la nuit coloniale. Il y a Frantz Fanon dans Les Damnés de la Terre qui parle de cette nuit coloniale et dit voilà, il faut qu'on puisse enfin sortir de cette nuit, nous et aussi les colonisateurs et les blancs. Et je pense qu'effectivement, on n'est pas encore totalement sorti de cette nuit coloniale. Donc, c'était aussi ça. Ce livre, c'était une plongée dans cette longue nuit qui continue à nous envelopper.
Merci Christophe Boltanski de nous avoir guider dans cette grande nuit de la mémoire coloniale. Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous.
King Kassai, le livre de Christophe Boltanski, vient de sortir en format poche.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
J'espère que vous avez aimé ce numéro de Dans quel monde on vit. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à nous offrir quelques bonnes étoiles. C'est précieux, ça permettra encore plus d'oreilles de nous écouter. Un grand merci et à très vite.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.